La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ne vous laissez pas faire. Luttez, soyez ambitieux, tapez du poing, n'arrêtez jamais d'apprendre et de voyager, de lire et de vous exprimer. La littérature est la plus forte chose du monde. C'est la copulation de la pensée et du beau. C'est signé Grégoire Paulet dans son roman Barcelone. Grégoire, bonjour.
Bonjour Adrien.
Invité des Belges du bout du monde à Barcelone, ça tombe bien. J'ai envie de vous dire buenos dias, comme on s'était dit il y a 6 mois quand on s'est rencontrés à Barcelone.
Exact, bon dia Adrien.
Oui, vous avez vécu là pendant 8 ans.
Oui.
Pas trop dur de rentrer en Belgique ?
Non, c'est assez long pour que le retour en Belgique soit une nouvelle découverte.
D'accord, donc ça fait plaisir.
Oui.
Ouais, Barcelone, où nous avons aussi rencontré deux jeunes femmes que je vais vous présenter dans cette émission. En radio ce matin, en télé cet après-midi, Jeanne Delolivo, elle a 24 ans. Elle enchaîne un Erasmus et un poste de prof de français dans la cité catalane. Et puis Catherine Allard, 55 ans, chorégraphe et danseuse. Pour chroniquer cette ville électrique, nous aurons aussi Mariam Allard, lauréate de la Belle Gaudissée. Mariam, bonjour.
Bonjour Adrien.
Alors vous avez un point commun avec chacune des deux Belges rencontrées à Barcelone.
Oui, exactement.
À l'art, comme la chorégraphe.
Ouais, mais je ne crois pas que ça s'écrit de la même manière.
Elle a deux ailes
voilà.
Et vous un seul. Et puis vous avez l'âge de Jeanne.
Oui, 24 ans.
Génération Erasmus, si bien décrite dans l'Auberge espagnole. Avec vous, nous ferons le point sur une tendance des marchands ambulants dans la ville.
Oui, c'est ça, les marchands ambulants qui se regroupent et s'unissent pour lutter contre les violences policières.
Comment les appelle-t-on là-bas ?
Les manteros.
À découvrir ce matin sur la première.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Avant de faire plus ample connaissance avec Jeanne et Catherine, nos Belges du bout du monde à Barcelone, Mariam Allard, vous allez nous présenter Barcelone.
Oui Adrien, quand je vous dis Barcelone, vous pensez à quoi ?
Moi, je pense à la mer et à la montagne, il y a les deux.
Oui, bah, c'est exactement ça. Moi, je rêve d'abord des plages qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, bordées par la Méditerranée à l'est et par la Serra Collserola à l'ouest. Barcelone, c'est aussi des lieux emblématiques comme la Sagrada Familia, la Plaça Real, la Plaça de Catalunya, j'en passe. C'est une ville riche, riche de culture, de diversité, de paysages, autant d'aspects qui en font une destination touristique majeure. C'est la seconde ville d'Espagne après Madrid. Elle compte près d'1 600 000 habitants. C'est aussi et surtout la capitale administrative et économique de la Catalogne. À Barcelone et en Catalogne, le catalan et l'espagnol, le castillan, sont des langues officielles. 70% de la population parle le catalan et 85% de la population parle les deux langues. Barcelone, c'est également une ville sportive. La ville est reconnue mondialement grâce à son équipe de foot, l'une des plus grandes équipes européennes.
Se atirou pra bola, Jonathan dos Santos, ela fica com o Barça. Se manda Suárez, tem condição legal. Sai o toque pelo meio, ela chega no Neymar.
Ah, le Barça, évidemment. J'imagine, Grégoire Paulet, que quand on vit pendant 8 ans à Barcelone, on va assister à un match, peut-être à un classico.
C'est presque inévitable. Et c'est vrai que ça a quelque chose de mythique comme ça et qui vous porte. Il y a une atmosphère étonnante et puis un niveau de jeu qui est quand même sidérant.
Oui, il y a un Belge hein, qui joue au Barça, Vermaelen.
Ah oui, alors il est arrivé. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu le voir jouer.
Parce qu'il ne joue pas souvent, il a été blessé.
Ah voilà, il est arrivé blessé. Et donc, il connaît, à mon avis, très bien l'équipe, mais nous, on le connaît mal.
Ouais, ouais. Vous en parlez dans votre roman qui s'appelle Barcelona. Et vous avez un avertissement au début. Les personnages, leurs noms, leurs opinions et leurs destinées, à l'exception des joueurs de foot, sont tous fictifs. Alors, Barcelona avec un point d'exclamation. Ce n'est pas un hasard, ce point.
C'est un roman qui est un peu un retour à la lumière, un retour à la joie, un retour à la contemplation de la beauté, de la vie grouillante, de l'énergie, etc.
Et ça fait du bien en cet automne un peu triste. C'est aussi le récit de vie d'une quinzaine de personnages dans une Europe en crise, un roman très humain où chacun peut s'y retrouver, une écriture légère, un rythme. On a l'impression de courir après ces personnages. C'est une très belle découverte. Nous, on va courir dans les pas d'une autre Belge qui vit à Barcelone, c'est Catherine Allard. Elle nous attend sur la place de la Catalogne.
Nous sommes à la place à Catalunya. En fait, on est au début de la Ramblas, hein, la sortie du métro. Maintenant, on va descendre vers la Boqueria, c'est le marché où je vais faire mes courses, parfois, pas tous les jours.
C'est un lieu de rendez-vous. Je veux dire, quand on veut retrouver quelqu'un, c'est ici.
Oui, c'est facile. Ou tu as l'entrée du métro, ou bien tu as le bar Zurich, le café Zurich, qui est en dessous de la FNAC. Donc c'est toujours ça, c'est un point de repère qui est assez facile, la Plaza Catalunya.
Et si on se laisse aller comme un petit bouchon, là, tout en bas, on arrive au port, on arrive à la mer?
Tu arrives à la mer, oui. Tu as le port maritime, oui. Et tu as Colonne, la statue de Colonne. Puis tu continues, tu vas à la plage, tu arrives à la plage.
Ça fait longtemps que vous vivez ici, Catherine?
Ça fait presque 20 ans. En fait, je suis arrivée ici en 96, à Barcelone.
Avant ça, vous étiez déjà belge du bout du monde?
Ben oui, en fait, je suis belge du bout du monde, enfin, bout du monde, depuis que j'ai 18 ans. Mon premier travail était en Hollande. Je suis restée 10 ans en Hollande, à La Haye. Ensuite, je suis partie à Madrid pendant 6 ans, où j'ai dansé aussi. Bon, c'était deux compagnies professionnelles. Et puis, je suis arrivée ici.
Votre métier, c'est la danse, danseuse d'abord, et puis chorégraphe, directrice artistique maintenant?
Oui, je suis directrice artistique d'une jeune compagnie de danse. C'est vraiment un projet pédagogique qui est passionnant, avec des jeunes entre 18 ans et 23 ans.
À 18 ans, vous étiez élève dans une école de Maurice Béjart.
Je me rappelle ses yeux, c'était comme deux mitraillettes, comme ça, enfin, mais c'était pas méchant. Il rentrait avec ses yeux, c'était comme des lasers. Mais en fait, la première chose qu'il m'a dit, si tu veux rentrer dans la compagnie, tu peux. Et moi, je n'étais pas prête pour rentrer dans la compagnie. J'ai dit, non, je veux savoir si ce serait mieux que je parte ou que je reste. Et il m'a dit, tu dois faire ce que tu sens. Et ce sont des mots qui te restent et que je suis encore. Hein. Je ne suis pas une personne qui sait parler, je parle avec mon mouvement, mais je me rends compte de la force des mots, et surtout en venant d'un maître comme Béjart.
Et dans votre vie, vous avez toujours fait ce que vous avez senti?
J'essaye de suivre toujours mes intuitions, ce que je sens qui est le plus juste à faire. Si tu comprends ça, alors tu peux avancer.
Catherine Allard, qui a suivi son instinct de Béjart à Barcelone, un peu comme vous, Grégoire Paulet, un écrivain, ça doit sortir de son quotidien, de sa zone de confort?
Bah oui, c'est assez indispensable. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, c'est instinctif, ça a été instinctif pour moi d'aller vivre ailleurs. J'ai d'abord vécu à Madrid, j'ai vécu à Paris, à Barcelone. Et après, en raisonnant, j'ai compris que la position d'étranger, le fait de se mettre, de devenir un étranger, est une position qui est extrêmement enrichissante, certainement pour un écrivain, probablement pour tout le monde, pour un artiste en général, parce que ça change le regard que vous portez sur le monde.
Ça donne un regard neuf.
Ça donne un regard neuf et en même temps, ça vous permet de voir les autres comme des gens qui vous accueillent. Tandis que quand vous êtes chez vous, vous ne vivez pas forcément de cette façon-là. Vous pouvez être vous-même plus ou moins accueillant, mais quand vous êtes à l'étranger et que vous vivez là-bas, vous dépendez de l'accueil des gens et donc vous découvrez cette grande valeur chez les autres. En fait, vous vous mettez dans une position où il devient assez important d'admirer les autres, d'admirer ce qui n'est pas soi, d'admirer autre chose. Et de nouveau, étant donné l'actualité dans laquelle on se trouve, il me semble que c'est une des valeurs les plus importantes que notre civilisation développe, c'est celle justement de pouvoir admirer l'autre, admirer l'étranger.
Ouais, l'ouverture d'esprit. Vous faites allusion aux attentats, des attentats que vous avez connus de près. Vous étiez à Madrid, un peu comme Catherine Allard, en mars 2004. Hein, on se souvient de cet attentat, c'était le RER, hein, le train qui traversait la ville. Vous étiez aussi à Paris début de l'année, là, le 7 janvier, au moment des attentats de Charlie Hebdo. Tout cela nous relie à la fragilité de la vie. Vous l'évoquez dans votre livre « Barcelona ».
Oui, c'est une très grande fragilité, la vie, et ça retire tout le mérite de ceux qui la détruisent. Ils ne font preuve que de lâcheté. Est-il facile de s'attaquer à un enfant? Oui, bien sûr. Mais l'enfant n'est-il pas la chose la plus belle? Eh bien, nous avons dans la liberté que nous laissons à nos propres concitoyens à l'intérieur de la société, à l'intérieur de notre civilisation, nous avons une vulnérabilité qui fait toute notre grandeur et qui fait donc toute la lâcheté de ceux qui l'attaquent. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, je pense, il ne faut pas du coup vouloir réduire ce qui fait notre grandeur. Il faut au contraire continuer à le développer avec insolence. Continuer d'être libre, d'être ouvert et d'aimer ceux qui nous détestent.
Mmh. Vous mettez aussi dans la peau d'une jeune héroïne très proche de Podemos, de tous ces mouvements des indignés.
Alors oui, ça c'est parce que quand j'étais à Barcelone, en effet, j'ai vu émerger ce phénomène des indignés de tout près. Sur la place de Catalogne où on se trouvait tout à l'heure avec notre chorégraphe, eh bien, il y a eu tout à coup là des milliers de personnes qui se sont rassemblées. J'ai été voir ça de près. Forcément, un écrivain ne peut pas passer à côté du réel comme ça complètement, tout de même. Et donc j'ai été voir ça, j'ai trouvé ça admirable et forcément ça s'est invité dans le roman. Alors bon, les indignés qui sont dans mon roman ne sont pas les indignés historiques, ce sont des personnages fictifs, bien sûr, mais qui reprennent, disons, l'atmosphère le message que les indignés ont porté.
Un roman écrit par un petit Belge, excusez-moi, hein, la caricature, mais c'est vrai, et qui est paru chez Gallimard, ça fait plaisir quand même. Hein, c'est un beau rayonnement, c'est disponible partout sur la planète et c'est écrit voilà, par vous, né dans où ça, Brabant Wallon
Non, moi je suis né ici à Bruxelles.
Ici à Bruxelles, ouais. Voilà, et vous avez vécu 8 ans à Barcelone. C'est un livre très bien documenté, près de 500 pages, qui s'avale très rapidement. On va écouter Freddie Mercury, en duo avec Montserrat Caballé. On ne peut pas passer à côté de ce morceau.
Ah non.
Allons-y. Barcelona, c'était Freddie Mercury en duo avec Montserrat Caballé. Barcelona, où vivent 3000 Belges du bout du monde. Nous n'aurons pas le temps de tous vous les présenter ce matin. Alors nous allons zoomer sur quatre personnalités, deux gars, deux filles. Il y a Grégoire Paulet en studio avec nous, romancier. Il y a Marc Lebussy, patron de bistrot à Barcelone. Il y a Catherine Allard, chorégraphe. Et puis Jeanne Del Olivo, jeune prof de français. Elle nous accueille sur sa bicyclette dans 5 secondes sur la première.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Bonjour Jeanne Delivaux.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Quand il fait beau, qu'on est à vélo dans une ville si bien adaptée pour le deux roues ?
C'est juste parfait. Le paradis sur terre.
Vous êtes ici depuis combien de temps ?
Depuis 8 mois maintenant.
Pour étudier ?
Non, je travaille comme auxiliaire de langue dans un institut à Cerdanyola d'Albades.
Dans la région de Barcelone.
Tout à fait, voilà. Ouais.
Alors vous êtes licencié en romane, vous êtes, le nom l'indique, d'origine belgo-italienne ?
Tout à fait, oui, mon papa est italien. J'ai fait mon Erasmus en Italie, mais voilà, après 5 ans, j'avais envie de découvrir une nouvelle langue et surtout une nouvelle culture, puisque mon copain est espagnol. Et de là, on a décidé de venir à Barcelone. Et depuis, je revis, c'est la belle vie ici, c'est vraiment chouette.
C'est une mentalité très très différente ?
Oui, vraiment. Les gens sont beaucoup plus relax, beaucoup plus calmes. La gentillesse des Catalans, c'est quelque chose qui m'impressionne tous les jours. Dans le train, tout le monde m'aide, par exemple, à porter mon vélo pour monter dans le train, etc.
Alors, on a dans votre génération l'image de l'auberge espagnole, ce film. Vous avez l'impression d'être dans le film ?
Mon Erasmus, oui, c'était l'auberge espagnole. Ici, c'est toujours cette rencontre avec les personnes étrangères, italiens, espagnols, Amérique du Sud, etc. Ça, on retrouve toujours, même maintenant, mais c'est dans un sens beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, les conversations qu'on a avec les gens et tout.
Alors, le travail consiste en quoi ?
Alors, mon travail, donc je donne des cours de français, mais vraiment basés sur l'oral, sur la pratique, sous forme de jeu, ludique. Voilà, c'est vraiment ça mon travail.
Et on sent, on le verra d'ailleurs tout à l'heure à la télé, une grande proximité entre vos élèves et vous.
Oui, oui, vraiment. Bah déjà, c'est dû à l'âge, puisque bon, les plus âgés ont 17 ans et j'en ai 24, donc d'office, on est plus proches. Mais c'est aussi l'enseignement espagnol lui-même qui est vraiment basé sur la familiarité prof-élève beaucoup plus que dans le nord de l'Europe.
Donc une jeune femme heureuse.
Oui, complètement.
Et ça fait plaisir à entendre, hein, une chica bien dans ses baskets. Vous l'avez rencontrée, hein, c'est un peu Cécile de France en plus méditerranéenne, on va dire.
Ah oui, oui. C'est un charme qui avance, c'est magnifique.
Oui, à découvrir à 17h50 sur la Une Télé dans Les Belges du bout du monde. Alors avant de continuer à arpenter Barcelone sur les traces de nos Belges sur place, penchons-nous avec vous, Maria Mallard, sur la situation économique et politique de la capitale catalane.
Oui, économiquement, la Catalogne, c'est la première région industrielle d'Espagne. Elle représente un cinquième de l'économie espagnole. La région est à la pointe dans la construction automobile, l'électronique, la chimie et le textile. Un succès économique important qui pèse dans la balance politique. C'est un argument pour les indépendantistes catalans qui reviennent sur le devant de la scène depuis 2010. Artur Mas, le président catalan, avait annoncé la tenue d'élections régionales anticipées. Des élections qui étaient centrées sur la question de l'indépendance. Le 27 septembre, ces élections régionales ont débouché sur un succès en demi-teinte des indépendantistes. Ils ont obtenu la majorité absolue aux élections en nombre de sièges, mais pas en nombre de suffrages. Ils n'ont finalement obtenu que 47,8% des votes. Résultat, ils remportent les élections, mais pas le oui pour l'indépendance.
Et la chose la plus triste finalement qu'on voit là-dedans, c'est plutôt le dialogue de sourds entre des institutions, Madrid et Barcelone, qui ne parviennent pas à se mettre autour de la table.
Oui, toute ressemblance avec ce qui se passe en Belgique serait purement fortuite. Hein.
Purement.
Purement, absolument. Est-ce que vous vous souvenez, Grégoire Paulet, de l'endroit où on s'est rencontrés à Barcelone ?
Ah, c'était un bar tenu par un type fantastique qui en connaît un bout sur la bière belge.
Oui, confirmation avec Jeanne Del Olivo, belge du bout du monde à Barcelone.
Ça s'appelle la Maison Belge. C'est un bar où l'on sert des bières belges, où il y a Jacques Brel au mur et où les cartes, c'est des BD. Donc c'est l'endroit où il faut aller.
Allez, on pousse la porte de ces petits cafés, de cette brasserie, hein, parlons belge, la Maison Belge, tenue par Marc Duvisible. Marc, bonjour, ça fait longtemps que vous êtes là ?
Bonjour, ça fait 8 ans et demi maintenant que je suis à Barcelone, hein, et 3 ans qu'on a ouvert le bar.
Jeanne est d'origine liégeoise, vous venez-vous d'une autre grande ville wallonne ?
Voilà, Charleroi, jumée pour être précis.
Alors vous n'avez pas vraiment une formation de garçon de café ?
Pas vraiment, non. J'ai étudié la psychopédagogie et ensuite l'anthropologie sociale. Donc c'est à la fois assez différent et puis non, on reste dans l'humain.
Oui, c'est vrai. C'est quoi ? C'est la psychologie de comptoir, l'anthropologie de bistrot ?
Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça. Il y a une belle galerie de personnages et de bons moments avec des gens qui viennent découvrir un bon produit.
C'est vrai que c'est un endroit sympa. Là, on est en terrasse dans un quartier ultra populaire.
Oui, Sants, on est tout près du stade du Barça. On est dans un quartier qui n'est pas le plus à la mode, qui n'est pas le plus central de Barcelone, mais qui a vraiment une identité propre et une population. C'est un village, en fait.
Vous avez lancé ici une petite entreprise parce qu'au départ, vous étiez associé, salarié. Maintenant, c'est votre petite boîte.
Voilà, oui, ça fait pas très très longtemps. On a repris le projet. C'est à la fois une aventure et en même temps, on est dans la continuité. Donc voilà, maintenant, c'est le bar qui va de plus en plus se dédier aux produits belges exclusivement.
Combien de bières ?
Actuellement, une grosse centaine, entre 110 et 120.
Pas que des bières belges ?
Si, si, que des bières belges et essentiellement, presque uniquement des bières artisanales.
Waouh ! Certaines même servies au fût. Alors vous faites venir les fûts par bateau ?
Par camion évidemment, par palette, mais on arrive malgré tout à avoir un approvisionnement raisonnable avec des produits de qualité.
Alors est-ce que la qualité de vie, quand même dans cette ville de Barcelone, a l'air impressionnante ? Vous pouvez confirmer que dans une métropole européenne comme celle-ci, hein, il y a quand même... quand on compte extramuros, 4 millions d'habitants, et on a l'impression d'être dans un autre rythme.
Exactement. On a tous les avantages d'une grande ville, mais avec un rythme de vie, une qualité qui est vraiment extraordinaire. Je crois que c'est unique. Je ne connais pas beaucoup d'autres endroits en Europe qui offrent cette qualité de vie-là.
Vos loisirs, par exemple, ça va faire rêver nos auditeurs.
Ah, les loisirs, ça peut être prendre le métro, se retrouver dans la montagne pour une petite randonnée. En 20 minutes, on y est et voilà, on peut passer la journée ou la demi-journée dans déjà Collserola, ici, au pied du Tibidabo. Quand le jour s'y prête, un voilier, quelques amis, et aller skipper. Enfin voilà, profiter vraiment de la Méditerranée, de la montagne.
Alors pourquoi Barcelone et pas une autre ville ?
C'est un peu un hasard, c'est découvrir il y a quelques années la ville et tomber amoureux, quoi, littéralement. En 24 heures, trouver que c'est la ville où j'ai envie de vivre. Hein.
C'était Marc Dubizy, patron de la Maison Belge à Barcelone, amoureux, hein, on l'entend, de la capitale catalane, un peu comme vous, Grégoire Paulet. Une ville très différente des autres villes où vous avez eu l'occasion de vivre en Espagne.
Et je pense que ce qu'il dit est vrai, le contact de la mer et de la montagne, c'est quelque chose qui est tout à fait spécial. On retrouve ça probablement à Valparaiso, à San Francisco, à, même en quelque sorte un peu à Lisbonne, même si c'est l'estuaire, ou à Vancouver. C'est des villes qui ont quelque chose de très particulier. Et si on tombe sous le charme, alors c'est trop tard. Ouais. C'est pas nécessaire de tomber sous le charme, mais si ça arrive, c'est trop tard.
Ça vous tombe dessus. Vous êtes passé d'abord par l'Extremadour, c'était en 1990 et des poussières, pour votre Erasmus, premier pas en Espagne, et là vous avez été pris.
Oui, et ça on ne dira jamais assez l'importance d'Erasmus pour la mobilité comme ça, le fait de se découvrir très très jeune, des passions pour des choses étrangères, c'est très important. Moi j'ai découvert cette petite ville de Cáceres qui est une ville qui est magnifique en Extrémadure, mais qui est hors des circuits touristiques parce que hors des grandes routes en fait, elle n'est pas sur la mer justement, elle n'est pas dans la montagne non plus. Et j'ai découvert donc l'Espagne par son côté le plus intérieur, et puis par la suite j'ai vécu à Madrid. Ça c'était quand je travaillais à la fac, et puis après comme je voulais absolument retourner en Espagne, je me suis dit on va retourner dans un endroit où on va continuer à découvrir quoi, pas un de ceux qu'on connaît déjà. C'est comme ça que je suis arrivé à Barcelone en fait.
Par amour, parce que vous avez suivi votre femme, c'est souvent, et vous êtes revenu en Belgique aussi pour, voilà, c'est bien, on inverse un peu les rôles.
Oui, c'est important de suivre sa femme. Il ne faut pas que ce soit toujours le contraire.
Du coup vous avez trois enfants nés chacun dans des villes différentes.
Oui, j'ai un fils qui est né à Madrid, un fils qui est né ici à Bruxelles et puis une fille qui est née à Barcelone.
Une sacrée famille hein, que nous continuons à découvrir sur la première. Les Belges du bout du monde reviennent juste après la pub.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jovenot.
Excellent dimanche sur la première à 10h. Alain Gerlache débarquera avec ses décodeurs RTBF. Mais d'ici là, ce sont les Belges du bout du monde sur la première avec notre chroniqueuse Mariam Allard et nos expats qui nous épatent. Jeanne Dell'Olivo, prof de français. Catherine Allard, danseuse et chorégraphe. Grégoire Paulet, romancier. Et oh, on peut dire adepte du catalan. Un petit mot pour souhaiter un bon dimanche à nos auditeurs en catalan.
Que tinguin un bon dia.
Gracias.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Que fait-on à Barcelone le dimanche, Grégoire Paulet? Il y a plein de choses à faire, qu'on soit amateur d'art, de mer, de montagne. On ne s'ennuie jamais une seconde dans la ville électrique.
Alors c'est vrai que les Catalans, le week-end, souvent, ils quittent la ville. Ils vont dans leur village ou bien s'ils ont quelque chose, soit à la montagne, qui est quand même à 1h30 seulement pour skier carrément, la Molina, soit à la plage, qui est soit en ville, soit dans toutes les plages de la Costa Brava. Donc finalement, c'est très bien d'être un touriste le week-end à Barcelone parce que la ville était beaucoup plus calme.
On va aller justement à Barceloneta. Vamos a la playa con la señorita Jeanne Dell'Olivo. Après une bouffée d'Yves Simon, ben, comme vous, écrivain, parce que c'est beau Barcelone l'hiver.
Où êtes-vous perdu? Et perdu dans ces rues, rêvez-vous, rêvez-vous à Barcelone l'hiver.
Toujours dans les Belges du bout du monde, depuis Barcelone, avec entre autres Jeanne Dell'Olivo. Jeanne, on est dans un quartier balnéaire.
Oui, nous sommes à la Barceloneta, où se trouve la plage de Barcelone.
En face de la plage, des petits restaurants à tapas. Quels sont justement les petits plats que vous aimez? Allez, un dimanche, vous sortez. Après la plage, qu'allez-vous manger?
Alors moi, je ne peux pas faire un seul repas depuis que je suis ici sans les pan tumaca. C'est du pain avec de la tomate frottée dessus, mais c'est super bon. C'est vraiment rafraîchissant, c'est bon.
Un peu grillé?
Oui, le pain peut être grillé.
Alors, les tapas aussi incontournables?
Oui, et tout ce qui est à base de poisson, dès que je reviens de la plage, c'est parfait. Voilà, que ce soit les anchois, la sole marinière, des gambas, tout y passe, c'est super bon.
J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez trouvé du travail à Barcelone. Parce que ça fait rêver, c'est pas évident quand même.
Alors, c'est grâce à un programme que propose la Belgique, mais différents pays la proposent aussi, c'est d'être auxiliaire de langue à l'étranger. Moi, ça a été à travers le WBI, donc Wallonie-Bruxelles International, et j'ai passé un entretien à Bruxelles, et de là, en choisissant la Catalogne, ils m'ont envoyé à Barcelone.
Et donc vous êtes au cours le matin et dehors, dans la ville ou à la plage l'après-midi, c'est
oui,
ça?
Oui, 12 heures semaine de travail et le reste du temps libre.
Ça suffit pour payer le loyer, pour trouver de quoi manger, sortir?
On travaille que 12 heures semaine, le salaire est bien, mais pour vivre dans une ville comme Barcelone, les 12 heures nous permettent de trouver des petits boulots sur le côté.
C'est ce que vous faites?
Oui, j'ai déjà travaillé dans un bar à l'occasion, ou des cours particuliers aussi en français, ça marche très bien.
Oui, c'est la crise, hein. Barcelone font enchaîner les petits boulots. Vous, Grégoire Paulet, vous êtes docteur en littérature?
Oui, c'est ça, en philologie.
Oui, on a beau être publié chez Gallimard, il faut aussi faire d'autres trucs.
Ah oui, bah forcément, il faut... Mais j'essaye de faire que des choses qui soient dans mon domaine.
Oui.
Donc j'écris, je donne des cours, des conférences, des choses comme ça.
D'accord, vous ne servez pas dans les bars. Enfin, plus maintenant.
Non,
vous l'avez fait quand vous étiez étudiant, mais maintenant c'est terminé.
C'est trop tard.
Voilà, vous n'avez pas non plus été Manteros?
Non, pas encore.
Pas encore, mais ça peut venir. Hein. La situation est très précaire. On va découvrir justement avec vous, Mariam Allard, la situation des Manteros, ces vendeurs ambulants à Barcelone. Ils ont décidé d'agir pour protéger leurs droits.
Oui, exactement. Ces vendeurs ambulants, on les a tous déjà vus. Ils font presque partie du paysage de Barcelone. On les croise souvent dans les grandes villes comme Paris et Barcelone. En Espagne, on les appelle les manteros parce qu'ils proposent aux passants leurs produits sur une couverture, une manta en espagnol. Ces marchands vendent souvent des produits de contrefaçon, des maillots de foot du FC Barcelone justement à 20 euros ou encore des lunettes de soleil bon marché. Bref, des ventes, ils en font, mais ils passent énormément de temps à fuir la police.
Et comment peuvent-ils protéger leurs droits alors qu'ils sont dans l'illégalité, ces manteros?
Eh bien aujourd'hui, ils sont fatigués de fuir. Ils ont décidé de créer leur syndicat, le syndicat populaire des vendeurs ambulants. Leur objectif, lutter contre la violence policière. Ils disent vouloir arrêter la persécution et la discrimination.
Oui, plus que ça, ce syndicat, c'est emblématique aussi d'un ras-le-bol général.
Oui, en réalité, c'est une succession d'événements qui ont mené à cette initiative. Au mois d'août, un mantero est mort. Il a sauté du troisième étage d'un immeuble en tentant de fuir la police. Suite à cela, ils ont commencé à manifester dans les rues de Barcelone. Et ça a bien sûr mené à de nouveaux affrontements avec la police. Chaque année, pendant la période estivale, il y a de nouvelles tensions. Ce qui est nouveau, c'est vraiment cette solidarité des manteros.
Et ce syndicat a du succès?
Eh bien, ça démarre assez fort pour le moment. En un peu plus d'un mois, le syndicat réunit environ 130 manteros sur 200 à 400 vendeurs estimés à Barcelone. La présence du syndicat rassure les manteros et ils se sentent soutenus. Bien sûr, cela ne résout pas tous leurs problèmes. Ils sont nombreux à être sans papier et ils sont souvent dans l'illégalité. La création de ce syndicat, c'est surtout un pas vers le dialogue avec les autorités.
Ouais, je vous propose de continuer notre balade en Catalogne avec Catherine Allard, belge du bout du monde à Barcelone, infatigable trekkeuse urbaine. Elle circule toujours à pied ou à vélo. C'est l'idéal pour faire des rencontres.
Quand je me balade dans le centre, je trouve toujours quelqu'un que je connais.
Et ici, vous tombez sur
Maria. Maria, qui est une maman, qui est maman d'une amie de ma fille qui joue au football avec elle. Et en fait, elles s'étaient déjà rencontrées quand elles avaient 2 ans à la crèche. Alors, c'était... Alors on discute un peu le football de samedi, qui était un match très important, ils ont perdu et ma fille était très déçue, la sienne aussi.
Hola Maria, qué tal?
Très bien.
Ah mais vous parlez français?
Oui, un peu.
Ah, non, mais magnifiquement bien. Alors je vois que vous vous promenez dans les rues de Barcelone à bicyclette.
Oui, c'est toujours. Je vais avec mon vélo partout. Je fais mes courses et mon travail très vite. C'est un très bon moyen de transport, malgré qu'on n'a pas beaucoup de carril bicicleta.
De vías verdes.
Oui, mais ça commence, oui. La mairie commence à penser aux gens qui se déplacent en vélo.
Et je vois que vous avez un siège à l'arrière.
Oui, j'ai une fille de 7 ans que je transporte avec moi. On va à l'école en vélo, etc.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ici... Nous sommes au bout du monde, parce qu'on fait le portrait pour notre émission de Catherine. C'est le bout du monde, Barcelone?
Non, je ne crois pas. Pour moi, c'est le centre du monde.
Ah, donc ce sont les Belges du centre du monde avec vous?
Oui, c'est peut-être mieux de dire ça. En fait, les Belges dans le centre du monde, Barcelone.
Et la vie est belle à Barcelone, même si c'est la crise, même si financièrement, économiquement, c'est difficile?
Ça dépend comment on vit les choses. Il faut se rappeler qu'il faut vivre chaque moment et avoir du plaisir à chaque moment. Ce n'est pas toujours facile, mais on a la possibilité à Barcelone de trouver des endroits tranquilles. C'est possible. On peut aller à la mer, on peut aller C'est une ville très vive, très vivante, très, très gaie. Donc on peut s'amuser à Barcelone. Ouais.
Et puis c'est le berceau aussi de Podemos, de plein de mouvements sociaux qui revendiquent autre chose.
Oui, le berceau. Bon, dans chaque ville, il y a eu les indignés, los indignados. On a parlé, je le dis maintenant à Maria, parce que je lui ai parlé de la Plaza Catalunya. Il y a eu la Plaza Catalunya ici, mais il y a eu la Puerta del Sol à Madrid. Et dans chaque ville, il y avait les indignés. Ils sont partout en Espagne. Hein. Bon, il y a beaucoup de manifestations, mais je crois que c'est un peu partout dans le monde maintenant.
Eh bien, on va vous souhaiter bonne continuation pour votre balade. Alors, avec le vélo, est-ce que c'est une bonne danseuse, vous qui allez la voir, Maria? Est-ce que notre Belge du bout du monde est une bonne artiste?
Oui, c'est une très bonne danseuse. J'ai vu ses derniers spectacles et ça m'a beaucoup, beaucoup plu et ça m'a beaucoup, beaucoup ému aussi. J'ai trouvé ça très beau.
Vous pouvez nous le dire en espagnol?
En catalan, puisque ma langue est le catalan. Que Caterina és una molt bona ballarina. He vist els seus últims espectacles i m'han agradat molt, molt i m'han emocionat moltíssim. Vaig inclús plorar d'emoció.
Ah bon, alors c'est facile parce que moi je comprends pas le catalan, mais moi j'ai compris que vous étiez une bonne danseuse, que vous avez vu que c'était très émouvant et qu'elle a même pleuré un peu.
Oui, mais tu as bien compris parce qu'en fait le catalan est très près du français. C'est une langue très proche au français, plus que l'espagnol en fait, plus que le castellan.
Merci beaucoup et adéu Maria.
Adéu et avec plaisir. Bon séjour à Barcelone.
À nouveau nous ramène toutes les couleurs qu'elle enflamme. À nouveau elle s'aime, caresse tes cheveux et la vie peu à peu revient te caresser les yeux.
Adéo. Vous l'avez reconnu, Grégoire Paulet, ce chanteur? C'était Pierre Rapsat, dont la grand-mère Aurore était espagnole, arrivée comme réfugiée politique en Belgique lors de la guerre civile espagnole. Pierre Rapsat qui allait très régulièrement dans le village catalan d'El Porte de la Selva. C'est vrai que ça nous ramène aussi aux réfugiés, aux migrants qui sont arrivés chez nous. On est de retour dans l'actualité aussi.
En 1939, il y a beaucoup de républicains qui ont été chassés par le régime franquiste et qui sont arrivés donc à la frontière française. Et il y avait une formidable photo de El Periódico, un journal de Barcelone, à l'époque de la crise des migrants, disons au tout début, et avait repris une photo de tous les Espagnols attendant à la frontière française. C'est une photo assez impressionnante. Et alors, le titre, c'était du genre « Nous aussi » ou bien « N'oubliez pas », parce que c'est vrai qu'on a tout à fait oublié que le processus s'est produit à l'intérieur de l'Europe et qu'en 1939, probablement, les Français voyaient les Espagnols comme aussi bizarres, aussi éloignés, aussi dérangeants que nous pouvons voir maintenant des gens qui viennent de Syrie. Donc c'était effectivement très intéressant, l'histoire se répète.
Mmh. Ben, ça nous permet d'enchaîner avec Manu Chao aussi sur la première. Puis nous nous retrouverons après avec nos Belges du bout du monde à Barcelone, Catherine Allard et Jeanne Delolivo.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
C'était Manu Chao, le catalan chez lui dans cette émission Les Belges du bout du monde à Barcelone. Avec nous ce matin, il y a aussi Mariam Allard, lauréate de la Belge Odyssée, Grégoire Paulet, auteur du roman Barcelona, et Catherine Allard, danseuse et chorégraphe à Barcelone depuis un quart de siècle.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, Les Belges du bout du monde.
Grégoire Paulet, j'ai envie de vous demander vos endroits préférés à Barcelone.
Oh, alors là, ça c'est vraiment une question difficile. Je pense que c'est des endroits, comme j'y ai vécu quand même longtemps, c'est des endroits qui sont devenus complètement, entre guillemets, subjectifs. Et c'est peut-être aussi des endroits qui dépendent du moment. Hein, le lieu, et le temps et l'espace, c'est ensemble. Je pense qu'un de mes moments favoris, c'était le samedi matin. Dans les rues de l'Aixample, donc la partie 19e siècle de la ville, avec toutes ces grandes rues perpendiculaires les unes aux autres. Parce que le samedi matin, figurez-vous, dans les rues de l'Aïchamplak, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Et alors, on a des oiseaux de mer. Les oiseaux de mer sont d'habitude dans le bas de la ville, près de la mer. Ils ne montent pas jusqu'à l'Aïchampla. Et bizarrement, le samedi matin, le dimanche aussi d'ailleurs, mais c'est le samedi qu'on s'en rend compte, vous avez des goélands qui enfilent les longues rues comme ça. Et alors, me retrouver soit à mon balcon, soit sur le trottoir, et voir les goélands qui prennent la place de la ville que les hommes ont désertée, ça a quelque chose de poétique et de baudelairien, c'est formidable.
Alors, vous nous avez surpris dans les réponses, parce que quand on parle des endroits préférés à Barcelone, on parle souvent de la cathédrale, ou alors des parcs, le parc Güell, hein, qui est, ah oui, le parc préféré de Catherine Allard, belge du bout du monde, sur place depuis un quart de siècle.
Je crois que c'est le parc préféré de beaucoup de monde. À Barcelone et dans le monde, parce que c'est un parc vraiment unique. C'est le parc Güell que Gaudi a créé, où il a vécu dans ce parc aussi. Là, il avait sa maison pendant 20 ans. Mais c'est un parc plein de surprises, de beauté, d'hallucinations, de couleurs, des champignons, des animaux, des iguanes. Il y a de tout. On se surprend tout le temps. Il mélange tous les styles, mais c'est son style.
C'est plein de courbes, plein de grâce, un peu comme dans un ballet.
Oui, c'est des dessins, c'est des mouvements en couleurs, ça n'arrête pas, c'est comme un labyrinthe de mouvements. Oui.
Mouvements que vous avez suivis, vous, comme Belge du bout du monde, depuis vos 18 ans, hein, vous avez beaucoup bougé. Une jeune fille aussi qui est née ici, qui fait du foot, donc le monde change, les lignes bougent, les filles font du foot, il y a des garçons qui dansent dans votre compagnie, ça va, c'est plein de belles choses.
Oui, ben la danse, bon, ma fille évidemment, elle a 15 ans et elle fait du foot, c'est étonnant, elle a la même passion, il y a beaucoup de parallélisme dans le travail, la rigueur, la constance. La physicalité est différente, mais c'est quand même très physique.
Vous prenez autant de plaisir dans un stade de foot que dans un théâtre ou à l'opéra ?
Ben, étonnamment, ça dépend du spectacle, mais je me suis trouvée parfois à avoir plus de plaisir dans le stade, en voyant ma fille, hein, je ne vais pas spécialement, que dans certains spectacles. Mais si je regarde un bon match de football, il y a vraiment une chorégraphie à voir. C'est aussi tout un art, hein, ce n'est pas seulement un sport. Si le spectacle est bon, si le match est bon, j'ai beaucoup de plaisir. Tout dépend de la qualité de ce que l'on voit. Et j'essaye de profiter du moment, d'avoir du plaisir avec ma fille, d'avoir du plaisir avec mon travail. Et l'important, c'est de ne pas oublier de vivre le moment.
Je vais vous laisser donner le mot de la fin, en catalan peut-être, pour souhaiter un bon dimanche à nos auditeurs et pour leur donner rendez-vous tout à l'heure à la télé pour votre émission Les Belges du bout du monde. Comment vous diriez ça en catalan, Catherine Allard?
La belga al fin del mundo, o el centro del mundo, como me dijo mi amiga María.
Hasta luego.
Hasta luego. Adeus, ciao.
Vous avez eu l'occasion, Maria Mallard, Grégoire Paulet, de voir l'émission en avant-première. On ne se moque pas de moi quand je danse. Mariam, vous avez vu que je danse très très mal.
Non, pas du tout.
Bonjour. Mais ce sont des personnages attachants, hein, Grégoire. À la fois Jeanne et Catherine.
Oui. Et puis Marc aussi, j'étais content de le revoir aussi dans l'émission. C'est des gens qui ont souvent cette ouverture d'esprit qu'ont les gens qui vivent à l'extérieur, qui savent qu'il faut être ouvert à eux et qui donc, par voie de conséquence, sont ouverts aux autres.
Avant de clôturer ces Belges du bout du monde à Barcelone, un petit coup d'œil avec vous, Mariam, sur le futur. À quoi faut-il s'attendre ces prochains mois en Catalogne?
Eh bien, une question importante, c'est bien sûr l'indépendance de la Catalogne. Les indépendantistes ont perdu la bataille en septembre, mais la partie n'est pas terminée. Ils ont quand même obtenu près de 48% des voix. Par conséquent, le vote des Catalans ne peut pas simplement être ignoré, surtout par le gouvernement espagnol. C'est un réel défi qui les attend. Du côté catalan, pour obtenir la majorité en nombre de sièges, les deux partis indépendantistes devront s'entendre. La coalition Ensemble pour le oui du président sortant Artur Mas et la candidature d'Unité Populaire. Alors que les deux partis s'entendent sur l'indépendance, c'est une chose, mais choisir un nouveau président, c'en est une autre. La candidature d'Unité Populaire ne souhaite pas qu'Artur Mas soit le nouveau président de la Catalogne. Le 12 novembre, pour la deuxième fois, sa candidature a été refusée avec 62 voix pour 73 contre. Et les parlementaires doivent se mettre d'accord avant le 9 janvier. S'il n'y arrive pas, de nouvelles élections devront être organisées.
Affaire à suivre, évidemment, sur la première, entre autres. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Mariam Mallard, Grégoire Paulet, prochaine destination, Bruxelles, quelques mois, quelques années, le temps que les enfants poussent et puis vous repartez?
C'est ça, j'aimerais aller à Rome.
Pourquoi pas, mais c'est une bonne idée. Dimanche prochain, nous serons en Côte d'Ivoire avec Michèle Zeneb Ouattara, une entrepreneuse en développement hyper active et passionnante. Je vous donne rendez-vous à 17h50 sur la Une Télé, mais dans l'immédiat, c'est Alain Gerlache que vous retrouverez avec ses décodeurs RTBF juste derrière le journal parlé de 10h. Merci Grégoire, merci Mariam, bye bye, au revoir.
Au revoir.
La première, podcast.